Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui va nous emmener aujourd'hui dans un pays particulièrement exposé au séisme après le tremblement de terre en Turquie.
Antioche est dans un état catastrophique, c'est un véritable désastre. Dans toutes les rues, les habitations sont détruites, un nombre de bâtiments endommagés innombrable.
Et ce séisme de magnitude 7,8 et ses dégâts innombrables posent la question de l'adaptation aux risques sismiques. Certaines zones, certains pays sont particulièrement sensibles. C'est le cas notamment du Japon, qu'on érige souvent en bon élève face à la menace des tremblements de terre. Est-ce réellement le cas? Les séismes là-bas y sont-ils moins ravageurs? Comment l'archipel s'est-il adapté? Quelles mesures ont été mises en place? C'est ce que l'on va tenter de comprendre dans ce focus avec toi, Philippe Dova, correspondant de RTL au Japon. Bonjour.
Bonjour Marion.
Et avec vous, Jean Virieux, sismologue, professeur émérite à l'Université de Grenoble-Alpes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors d'abord, Philippe, toi qui es basé à Tokyo, tu me le disais en préparant ce podcast, hein, des tremblements de terre, des secousses, tu en ressens en fait très régulièrement?
Oui, très régulièrement. Alors ce sont des petites secousses, on est habitué, c'est à peu près, je dirais pas une fois par semaine, mais c'est très régulier. Parfois ça dure quelques secondes, parfois moi j'ai pris l'habitude de chronométrer quand ça commençait, donc parfois c'est une minute trente, mais voilà, on s'y habitue en fait. Ça fait partie du paysage, ça fait partie de la vie au Japon, on le sait en y arrivant, et on vit avec.
Jean Virieux, est-ce qu'on a des chiffres, une moyenne du nombre de séismes chaque année au Japon?
On peut avoir une moyenne, mais il faut bien être conscient qu'il y a des secousses à peu près tout le temps, y compris d'ailleurs en France, hein, vous ne vous rendez pas bien compte, mais une montagne comme les Alpes entraîne des secousses quasiment quotidiennement. La question, c'est combien y a-t-il de secousses telles qu'on ait effectivement un risque ou un impact sur nos sociétés. Et au Japon, on peut le souligner, c'est extrêmement fréquent et journalièrement, on a effectivement des tremblements que les populations ressentent et pour lesquels elles sont bien préparées.
Alors en mars 2022, par exemple, un séisme de 7,3 avait été enregistré au large du département de Fukushima. Ce séisme, il avait fait 4 morts et une centaine de blessés. Ces chiffres-là, au regard de la dévastation en Turquie, forcément, ils interpellent. Jean Virieux, est-ce que c'est la preuve là que justement le Japon est mieux préparé à ces risques?
La réponse est un petit peu compliquée dans le sens où au Japon, ce qu'il y a comme séisme, ce sont des séismes sur des failles dites inverses dans des zones de subduction et donc d'un mécanisme très différent de celui que l'on a en Turquie qui sont des failles transformantes où il y a une plaque qui glisse par rapport à une autre sans destruction de matière. Par ailleurs, ces séismes qui ont lieu en zone de subduction, qui sont les plus dévastateurs effectivement au Japon, ont lieu en mer, assez éloigné des côtes, et si bien que les impacts sur les bâtiments sont différents. On peut remarquer que justement, le Japon, fier de cette observation, pensait pouvoir réduire l'impact des séismes importants, et le séisme de Kobe de 1995 a été un contre-exemple où justement les failles qui se trouvaient beaucoup plus à terre, proches des côtes, dans des endroits de failles non identifiés, a été un révélateur que le Japon n'était pas exempt de désastres associés à des séismes.
Oui, ce précédent traumatisant du séisme de Kobe, archive RTL d'ailleurs de ce 17 janvier 1995.
Le Japon, frappé ces dernières heures par un très violent séisme, un premier bilan fait état d'au moins 200 tués et de 700 blessés. Le tremblement de terre d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter a frappé le centre de l'archipel. À Osaka, Kyoto et Kobe, 300 personnes se trouveraient toujours ensevelies sous les décombres. Écoutez le témoignage de Bernard Alain. Il est le président de l'Association des Français du Japon. Comme 500 autres Français, il vit à Kobe, région particulièrement touchée par le séisme.
Tout l'intérieur de la maison est tombé. Tout ce qui est meuble, tout ce qui était cadre, tout ça est tout complètement tombé. La cuisine, on ne peut plus rentrer dedans, tout est cassé. Enfin, à l'extérieur, il y a des fractures dans le sol, des crevasses dans le sol de 10 cm. Le sol est complètement lézardé.
200 morts évoqués donc le jour du séisme. En réalité, le bilan final est bien plus élevé. Plus de 6400 morts et près de 44 000 blessés pour ce séisme en 1995 à Kobe. Ça, Jean Virieux, ça a été un électrochoc au Japon.
Oui, ça a été un électrochoc dans le sens où le Japon, qui se croyait protégé des séismes, a constaté qu'il pouvait avoir des événements inattendus. Cela a été d'autant plus remarquable et souligné, c'est que les secours n'ont pas été à la hauteur. Ils ont envoyé en fait par les routes pour aller secourir les gens. Malheureusement, les routes étaient en fait dévastées. Et donc, il a fallu un certain temps avant qu'ils réalisent qu'il fallait plutôt des secours aéroportés pour intervenir. Et ça montre bien l'importance de la gestion des crises qu'on peut avoir dans tout pays, à savoir adapter les moyens de secours aux conditions réelles de la catastrophe. On a le même problème en Turquie à l'heure actuelle, c'est comment adapter nos secours pour que ce soit le plus efficace possible pour intervenir auprès de populations qui ont, pour des raisons diverses, qu'un temps limité de survie, en fait, soit par le fait que la température est trop froide, par le manque d'eau, par le fait d'être coincé sous des gravats. Donc il faut intervenir rapidement. Et pour cela, il faut savoir ce qui s'est réellement passé. D'où l'importance du suivi actuel que l'on a de plus en plus de ce qui se passe instantanément lors d'un séisme.
Et donc justement, le Japon, depuis 1995, en matière d'évaluation, d'adaptation, de secours aussi, s'est considérablement amélioré.
Il s'est considérablement amélioré à plusieurs niveaux. Vous parlez des secours, mais ce qui est vraiment, pour moi en tant que sismologue, extrêmement impressionnant à l'heure actuelle au Japon, c'est le déploiement massif de tout l'ensemble des systèmes d'enregistrement de séismes que nous pouvons avoir. Le Japon a le plus gros réseau de sismographes. Il a le réseau le plus important de GPS, de stations GPS qui mesurent des déplacements millimétriques par an. Et il a déployé des fibres optiques le long des côtes de manière à suivre dans le détail tout ce qui peut se passer instantanément. Il a par ailleurs développé des protocoles de simulation de séisme qui fait que dès qu'un événement arrive, ils sont de plus en plus capables de savoir exactement l'impact qu'a eu ce séisme sur les structures diverses et variées. De ce côté-là, ils ont fait un effort extraordinaire. Ils ont aussi, au niveau recherche, via le JAMSTEC, qui est un institut marin japonais, construit le navire qui peut faire des forages profonds de manière à pouvoir identifier les failles qui peuvent jouer en mer dans les zones de subduction. En bref, le Japon mobilise des moyens considérables, exceptionnels, je dirais, par rapport à d'autres nations, pour se prémunir des effets des séismes et des tsunamis. Mmh. Notons quand même qu'en dépit de cet effort, le séisme de Tohoku de 2011 a également montré les difficultés de pouvoir se prémunir, qui fait que le risque zéro n'existe pas. Sachez que le séisme de Tohoku, qui a impacté la centrale de Fukushima, on n'avait pas une vision très claire du type de tsunami qu'il allait enclencher, puisque les protections de la centrale par une digue étaient insuffisantes par rapport à la hauteur de vague du tsunami. Pourtant, si on fouille bien la littérature scientifique, on constate que un séisme de ce type-là avait eu lieu en l'an 800 de notre ère, et que si on avait pu bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, on aurait pu mieux diffuser et mieux prévenir. Mmh. Donc l'état de connaissance, l'actualisation de connaissances est fondamentale pour ce genre de choses. Et le Japon a mis énormément de moyens pour y arriver.
Mmh. Le Japon qui s'est donc adapté aussi, et notamment sur les constructions, sur l'architecture. Dans le paysage japonais, Philippe, ça se manifeste comment ?
Ça se manifeste, Marion, par des bâtiments beaucoup moins hauts. On a tout tous en mémoire les hautes tours de Shanghai. C'est un peu la course en Asie, que ce soit à Kuala Lumpur ou à Shanghai, de la ville qui aura le plus haut building, c'est-à-dire des immeubles de plus de 100 étages. Au Japon, pas du tout. Il y a un immeuble qui est en fin de construction, qui de mémoire doit faire une soixantaine d'étages à Tokyo. C'est vraiment ce qu'il y a de plus haut. Parce que tout simplement, on peut pas faire des immeubles, des gratte-ciel trop. C'est-à-dire que il y a des gratte-ciel à Tokyo, il y a des gratte-ciel dans les autres villes du Japon, mais ils grattent un peu moins le ciel que dans les grandes villes d'Asie.
Jean Virieux, sur les constructions, d'ailleurs, les normes antisismiques au Japon, elles sont particulièrement strictes.
Dans le sens où vous avez des forts séismes qui ont lieu au Japon, la réponse est oui, il y a des normes. Mais par exemple, pour vous mentionner le cas de Kobe, un des impacts les plus importants a été le feu qui a brûlé des constructions en bois. Donc les règles parasismiques, bien sûr, il y en a au Japon pertinentes. Après, comment faire évoluer notre bâti, nos structures pour cela est toujours un problème. On peut souligner que le train à très grande vitesse du Japon n'a pas déraillé. Le train à grande vitesse peut s'arrêter, ne pas dérailler en cas de fort séisme.
Ouais, donc c'est vraiment toutes les infrastructures finalement qui sont résistantes, entre guillemets, à ce risque de séisme. Alors je me demandais, moi, quand on veut construire un bâtiment au Japon, comment ça se passe? Est-ce que ça prend plus de temps compte tenu de ces normes parasismiques? Je vous propose d'écouter ce que m'a répondu tout à l'heure l'architecte François Tamizier, qui a notamment travaillé sur le musée maritime d'Osaka, une sorte de sphère posé dans la baie de la ville.
Quand on mène un projet au Japon, tel que le projet La Cisère que nous avons réalisé avec Paul Andreux, auteur de ce bâtiment, les calculs prennent beaucoup plus de temps, bien sûr, parce qu'il faut considérer le sujet du séisme, et pour tout bâtiment en rive de la mer ou bien implanté dans la mer, il faut considérer le sujet du tsunami. Donc, pour ce bâtiment, ce que nous avons fait au-delà des calculs, nous avons réalisé une maquette à très grande échelle dans un laboratoire spécialisé en études sismiques et de tsunami, et nous avons soumis l'ensemble du bâtiment à un test de vagues de tsunami dans un bassin qui faisait à peu près une cinquantaine de mètres de longueur. On simule un tsunami. Et ça permet de vérifier avec des testeurs posés sur la maquette à grande échelle, à différents endroits de la maquette. On met des testeurs et on vérifie l'impact du tsunami sur les fondations et la base de ce musée. Et en fonction des résultats, évidemment, on améliore le dessin si nécessaire.
Sur les fondations, justement, puisqu'il y a aussi le tremblement de terre initial avant le risque de tsunami, sur le travail sur les fondations, justement, on travaille sur quelle technique? Qu'est-ce qui s'impose initialement, dès le départ, quand on pense à une construction au Japon?
De toute façon, il y a les données sismiques. On connaît les valeurs sismiques qu'il faut prendre en compte, parce que par région, on peut dire qu'il y a des valeurs attribuées de risque plus ou moins élevé de séisme et de force élevée. Donc ça donne des valeurs de calcul. Et à partir de là, effectivement, dans le calcul des fondations, on va en tenir compte. Et en général, il y a une désolidarisation entre les fondations et le bâtiment, de manière à faire en sorte que le bâtiment puisse être libre et bouger librement pour pouvoir absorber la violence du séisme. C'est-à-dire qu'on ne bloque pas les choses.
Et comment on s'assure techniquement qu'un bâtiment puisse absorber ou bouger?
On le met, on ne le fixe pas, définitivement à ses fondations. Il est posé sur ses fondations, et entre les fondations et le bâtiment lui-même, il y a des énormes joints, des joints néoprènes, c'est très classique, et qui permettent au bâtiment de bouger, de glisser, de ne pas être prisonnier de ces fondations qui, elles, sont soumises au séisme.
On a en tête, Jean Virieux, ces images d'immeubles qui bougent à Tokyo, notamment en cas de séisme. Ça demande forcément une expertise en matière d'ingénierie, de construction, des moyens aussi. Finalement, est-ce que ce n'est pas aussi pour ça que le Japon s'en sort mieux face au séisme ?
Le problème là qui est discuté à l'heure actuelle, c'est la construction de nouveaux bâtiments. Donc ça, effectivement, on sait faire. On peut avoir des amortisseurs passifs ou actifs, passifs comme le néoprène, soit actifs comme des systèmes à ressort. Ça, c'est pour les nouvelles constructions. Le problème majeur auquel fait face le Japon comme d'autres nations, c'est le bâti existant. Comment protéger le bâti existant des secousses? Et pas que le bâti, comment peut-on également protéger l'ensemble des infrastructures? J'ai mentionné le train, mais c'est également vrai pour ce qu'on appelle les conduites de gaz, l'aménagement électrique. Comment protéger toutes nos technologies dont on a besoin lors de ces catastrophes? Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une vision très rapide de ce qu'est la catastrophe en termes d'impact. Nous avons par exemple des systèmes qu'on appelle de l'alerte précoce. L'alerte précoce fait qu'on sait après l'événement quand les ondes vont arriver à un endroit donné. Le Japon est très fort dans ce domaine d'alerte précoce, de manière justement à arrêter les trains. Autrement dit, en cas de gros séisme, les trains ne continuent pas à circuler. Ils sont alertés avant impact, avant que l'onde qui va justement faire vibrer les rails arrive sur le train. Et c'est pour ça que le Japon a développé des systèmes d'observation par fibre extrêmement rapide autour de ses côtes, de manière à avoir cette vision d'alerte précoce. Donc vous voyez que nous avons différents dispositifs et le Japon les met en œuvre particulièrement. Vous pouvez avoir chez vous un instrument qui vous alerte qu'un séisme va arriver. À côté du téléphone, vous avez un capteur qui vous dit « il y a eu un séisme, vous avez quelques secondes pour intervenir vous-même ». D'où l'éducation qui fait que vous pouvez à ce moment-là vous déplacer dans votre appartement si vous habitez dans les étages, de manière à vous en mettre en sécurité le plus possible. Le Japon voit ces différents systèmes de mise en œuvre qui impliquent une forte mobilisation de la population. C'est pour ça qu'elle est bien éduquée pour ça.
Alors justement, sur ce que dit Jean Virieux, Philippe Dova, toi qui vis au Japon, d'abord sur le bâti existant, toi tu me le disais, hein, quand on arrive au Japon, on regarde quand on va louer un appartement l'année de construction de l'immeuble, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, parce que les normes ont évolué au fil des années. Donc, on est plutôt plus confiant dans un bâtiment qui a été construit, on va dire, au 21e siècle, c'est-à-dire après l'an 2000. Quand vous visitez un appartement dans un immeuble et qu'il y a que la date de construction, d'ailleurs, c'est obligatoire, hein, que ce soit marqué dans tous les contrats de location. Quand c'est après 2000, ben on est plutôt rassuré. Quand c'est avant, on pose des questions, on demande si le bâtiment a été remis aux normes, aux dernières normes. Donc c'est quand même un sujet de préoccupation lorsque l'on arrive au Japon.
Et puis dans ce que disait Jean Virieux, il y a aussi la question de la prévention. Toi par exemple, quand tu es arrivé au Japon, tu as été formé, tu as découvert certaines obligations liées à ces risques sismiques.
Oui, on est formé, déjà on est averti, lorsqu'on s'inscrit à la mairie du quartier où l'on habite, on reçoit un QR code qu'on doit scanner, qui nous amène sur une application qui va se déclencher en cas de risque de tremblement de terre. On peut assister à des cours aussi d'entraînement en cas de tremblement de terre, des cours qui sont donnés dans toutes les écoles, d'ailleurs aux enfants. Et puis on doit avoir chez soi un sac de secours. Dans le sac de secours, il y a de l'eau, il y a des vivres à peu près pour on va dire 48 heures. Donc c'est un joli sac orange, assez volumineux, avec des biscuits secs, une couverture de survie. On doit avoir un casque aussi, parce que si le tremblement de terre est trop important, il faut mettre son casque et voire se mettre sous une table, si on en a une à portée de la main. Donc il y a toute une éducation qui est faite pour savoir ce qu'il faut faire en cas de tremblement de terre. Puis les rues sont équipées, il y a des refuges, il y a même des toilettes qui ressemblent un peu à des plaques d'égout, mais qui en cas de tremblement de terre, si les gens ne peuvent plus rentrer chez eux, c'est des toilettes qui sortent des trottoirs. Il y a des axes spéciaux qui sont bien indiqués en cas de tremblement de terre, qui sont réservés uniquement aux véhicules de secours. Tous les Shinkansen sont équipés de détecteurs de séisme, donc qui s'arrêtent automatiquement s'il y a le moindre risque. Donc vraiment, ils vont très très loin dans la prévention, et c'est un sujet d'inquiétude nationale de toute façon.
Et dans les bureaux, dans les locaux, dans les ascenseurs aussi de ces immeubles, même si ces grands immeubles ne sont pas hyper nombreux, là aussi, il y a tout un tas de petites choses qui sont prévues. Hein.
Ah oui, bien sûr, il y a dans les bureaux, évidemment, chaque bureau, chaque entreprise a l'obligation d'avoir tout l'équipement nécessaire pour ses salariés en cas de séisme, donc un peu ce que l'on a à la maison, mais au niveau d'une entreprise. Et puis dans les ascenseurs, vous avez une boîte qui contient des vivres pour aussi 24 à 48 heures, donc des biscuits secs, de l'eau potable, tout un tas de choses. Et cette boîte, si vous êtes coincé dans l'ascenseur lors d'un séisme, eh ben vous avez le droit d'ouvrir c'est un genre de petit coffre, vous avez le droit de l'ouvrir pour survivre.
Merci à vous deux, Jean Virieux, sismologue, professeur émérite à l'université de Grenoble-Alpes, et Philippe Dova, correspondant de RTL au Japon, de nous avoir accompagnés dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.